Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, de la ferme à l'assiette, comment l'Europe transporte son bétail? Sur un marché mondial de la viande, les bovins, les porcs, les moutons, les volailles sont plus d'un milliard à parcourir l'Europe chaque année et à voyager même au-delà, jusqu'au Maghreb, en Turquie, en Irak. C'est un périple qui peut durer parfois des semaines dans des camions ou des ferries, insalubres pour des animaux d'élevage mal nourris, bourrés d'antibiotiques. Ils naissent en fait dans un pays, ils sont engraissés dans un autre, puis abattus en fonction des habitudes alimentaires, des fêtes, de la demande locale de viande et surtout de la rationalisation des coûts. Le secteur de l'élevage est responsable d'au moins 14% des gaz à effet de serre mondiaux. Les Européens consomment environ 70 kg de viande par an. Mais que savent-ils vraiment des routes empruntées jusqu'à leur assiette? Pourquoi l'Europe ne parvient pas toujours aussi à faire respecter ses réglementations? Nous allons en discuter avec notre invité. Bonjour, Émilie Fenotti.
Bonjour, Emmanuel.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste et vous publiez une enquête à charge, singulière, très documentée, bien construite auprès d'organisations de défense de la cause animale, hein, puisque vous avez vraiment suivi le travail des activistes qui défendent la cause animale. Votre livre s'appelle « Carcasse, une enquête sur les routes de sang. Elle est publiée chez Marchiali, donc il y a très peu de temps. Vous avez sillonné ces routes, vous avez suivi ces transports maritimes dans le sillage donc, du bétail européen. Et nous verrons avec notre correspondante au Royaume-Uni, Emeline Vin, comment et pourquoi ce pays hors Union européenne a décidé, et bien justement il y a quelques mois, d'interdire les exportations d'animaux d'élevage vivants, donc excepté les poulets. Et nous verrons aussi comment la Tunisie est dépendante pour ses besoins en viande d'animaux vivants qui arrivent d'Europe, mais c'est aussi le cas du Maroc. On sera en ligne avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem. Et puis en fin d'émission, la chronique d'Osman van der Dey, un autre regard sur l'économie du continent africain du côté des consommateurs. Aujourd'hui, comment construire sa maison en multipropriété? Des programmes voient le jour.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Émilie Fenotti, vous avez 32 ans ?
Oui, tout à fait.
Vous n'avez pas grandi à la campagne ?
Pas du tout.
Vous avez eu finalement, vous êtes une enfant de la viande en barquette, plastique. Pourquoi vous avez eu envie d'enquêter sur le transport de bétail ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à cette enquête, en fait, j'étais assez peu informée moi-même des modalités de transport des animaux et même en fait, de toute l'industrie agroalimentaire et de l'élevage. Et en fait, j'ai entendu parler de l'action de ces activistes donc, qui sont vraiment dédiés au bien-être animal et qui enquêtent sur les routes européennes, vraiment à travers vraiment toute l'Europe, sur les conditions de transport. Sachant que quand même ces dernières années, on a beaucoup d'informations sur l'élevage, sur les abattoirs, les conditions d'abattage, beaucoup de vidéos, notamment d'associations comme L214. On a encore assez peu d'informations, enfin, le grand public a encore assez peu d'informations sur les conditions de transport. En effet, moi j'ai été élevée, on peut dire même, à la ville. Et toute mon enfance, bah, en effet, j'ai connu la viande en barquette du supermarché.
Steak haché.
Le steak haché, voilà, les petites barquettes de poulet, sans vraiment voir l'animal qu'il y a derrière, en fait, et toute la vie de l'animal qui a été vécue. Et dans cette vie animale, il y a en effet le transport. Donc il y a la naissance de l'animal, ensuite souvent il y a un premier transport pour aller sur une autre ferme où les conditions d'engraissement vont coûter moins cher, donc ça peut être en fonction des coûts des terres, des coûts de la nourriture. Et puis on va avoir un autre transport qui va arriver sur la fin de vie, qui va être vers l'abattoir. Entre ça, il peut y aussi avoir d'autres transports qui vont faire de l'exportation des animaux vers d'autres pays parce que y a un commerce de la viande et des animaux vivants en fait qui se fait de l'Europe vers d'autres pays.
Pourquoi vivant et pas mort ?
Alors c'est là qu'intervient la rationalisation des coûts, c'est-à-dire que le transport des animaux vivants va en quelque sorte coûter moins cher que le transport d'animaux déjà de carcasse, qui nécessite des camions réfrigérés. L'animal vivant...
Donc c'est beaucoup plus cher en énergie, forcément.
Voilà, c'est beaucoup plus cher en énergie, c'est beaucoup plus cher pour les transporteurs, c'est beaucoup plus cher pour toute l'industrie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des animaux vivants qui sont, par exemple, nés en France ou en Irlande ou aux Pays-Bas, et on les met dans des camions, et il n'y a pas besoin de les réfrigérer. On les transporte dans des conditions qui sont vraiment le strict minimum en termes de bien-être. Et voilà.
Les routes classiques empruntées, qu'est-ce que c'est? Quand on voit que, par exemple, les Pays-Bas, c'est le numéro 1 des éleveurs de veaux, ils exportent 90% de leur production.
Alors, les Pays-Bas exportent, mais ils importent aussi beaucoup. Il y a un très très gros marché du veau qui prend racine en Irlande. Donc ça, on l'a bien documenté dans le livre. En fait, l'Irlande est un énorme producteur de lait. C'est vraiment le 6e producteur européen de lait, mais c'est un tout petit pays comparé à la France, qui est par exemple le 2e producteur de lait, en termes de superficie, je veux dire. Donc le marché est vraiment gigantesque. Le marché du lait irlandais est vraiment immense par rapport au pays. Sauf que les Irlandais, d'un point de vue culturel, ne consomment pas du tout de veau. Donc nous, comme on ne consomme pas de chevreaux, par exemple, eux ne consomment pas de veau, ce n'est pas dans leur culture, ils trouvent ça trop mignon. Ce qui ne nous retient pas, nous, en France. Ce qui fait qu'en fait, il y a un marché qui se développe des veaux irlandais vers le continent européen, donc notamment vers la France, et vers, en effet, les Pays-Bas, qui est le plus gros importateur de veaux irlandais. Donc, suivant la saisonnalité, en fait, les vaches mettent bas au printemps, et donc au printemps, on a à peu près entre 200 000 et 300 000 veaux irlandais qui transitent par la France, obligatoirement, et qui vont
vers
les Pays-Bas, voilà, et vers d'autres pays.
C'est ça, ça peut être la Pologne, ça peut être le sud de l'Espagne. Vous avez suivi le travail des activistes dans une voiture banalisée pour évaluer les temps de transport, les violations des lois européennes, notamment quand les animaux passent plus de 9 heures sans être nourris.
Alors, il y a des régulations européennes qui encadrent donc le transport. Dans le cas des veaux non sevrés, parce que ce sont des veaux non sevrés qui voyagent, ils ont 2 semaines, donc très très jeunes. En fait, il doit y avoir un temps de pause au bout de 9 heures de transport. Là, le camion doit s'arrêter, on doit leur donner de l'eau. Sauf que les veaux non sevrés, par exemple, ne boivent pas d'eau, ils ne boivent que du lait.
Parce qu'ils ont un appareil digestif trop fragile.
Tout à fait, qui n'est pas encore formé, en fait, qui est juste adapté à recevoir du lait maternel. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Et ensuite, ils ont le droit de revoyager encore 9 heures, donc 18 heures, 19 heures en tout, avec la pause d'une heure. Et là, ils arrivent dans des centres de transit. Donc il y en a un qui est à Cherbourg, en France. Il reste 24 heures pour se reposer. Alors, on a vu que parfois, c'est beaucoup moins. Ça peut être 12 heures, donc une nuit. Et ensuite, ils repartent vers d'autres contrées européennes. Donc ça, c'est un encadrement qui est très spécifique aux veaux, mais il y en a d'autres pour, par exemple, les porcs. La limite de voyage est de 24 heures. Pour des animaux qui partent à l'abattoir, il n'y a pas de limite de temps de transport. C'est-à-dire que si on a envie d'aller les abattre à l'autre bout de l'Europe, c'est tout à fait possible. Ils sont déjà considérés en quelque sorte comme morts.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de maladies quand ils sont peu nourris, peu hydratés?
Alors, évidemment, les longues heures de trajet posent des problèmes d'un point de vue sanitaire. Ce qui fait que, dans le cas, par exemple, toujours des veaux, on va leur administrer de fortes doses d'antibiotiques pour éviter qu'une fois arrivés chez l'acheteur, chez l'importateur, ils tombent malades. Ce qui pose évidemment des problèmes sanitaires.
Et ça, y compris pour les consommateurs.
Hein. Y compris pour les consommateurs, parce qu'on se retrouve en effet avec de la viande qui est blindée de médicaments.
Alors, c'est compliqué d'enquêter. Hein. C'est aussi pour ça que les vidéos de L214 sont très connues pour avoir documenté les conditions d'élevage. Mais organiser des filatures pendant des nuits entières, pendant des jours entiers, que ce soit sur la route, que ce soit sur des ferries aussi, pour suivre les conditions de transport des animaux, c'est compliqué. Il y a une méfiance aussi des éleveurs et des transporteurs maintenant qui connaissent bien le travail des activistes. Et on est dans un milieu où, là aussi, vous racontez bien dans votre livre, c'est compliqué de filmer les porcs, de filmer les attentes des animaux. Les activistes sont en planque, sont en filature, mais parfois ne trouvent rien du tout non plus, ne trouvent rien à redire parce que la réglementation est respectée. Donc votre enquête vous a mené en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne, en Bulgarie, à la frontière turque.
Hein, tout à fait.
C'est ça. Raconter les conditions désastreuses du transport d'animaux en même temps, à l'heure où des hommes et des femmes perdent la vie, eux aussi lors de périples migratoires dramatiques. On se dit, est-ce que c'est vraiment la priorité ?
Alors, c'est un sujet qui m'a touchée, moi, pendant mon enquête. C'est-à-dire que la façon dont on traite les animaux, elle est en quelque d'une certaine façon, le miroir de la condition dans laquelle sont les êtres humains qui doivent s'en occuper, déjà, et qui font le voyage avec ces animaux. Donc, en effet, il y a toute une tension qui est entre l'industrie et ses associations qui existent et qui rend, en effet, toute la question du transport très compliquée. Et il y a une méfiance qui vient aussi des travailleurs du transport des animaux, donc que ce soit les chauffeurs ou alors dans le cas du transport maritime, là c'est encore plus une boîte noire dans le sens où les marins, donc qu'on appelle les cowboys, n'ont pas le droit de mettre, enfin s'ils ne sont pas européens, n'ont pas le droit de poser un seul pied sur un port européen. Donc ça a été le cas par exemple quand on est allé à Carthagène, où on a vu que en fait c'est très compliqué, c'est très cloisonné. Il y a des caméras de surveillance, là, il y a des barbelés qui entourent les ports. On nous a fait valoir le droit de propriété privée un nombre incalculable de fois. Et en effet, du coup, les associations travaillent un peu en cachette pour documenter les conditions qui sont vraiment de plus en plus occultées.
C'est vraiment un livre qui montre, en tout cas, peu importe qu'on soit consommateur de viande ou pas, mais c'est un livre qui montre vraiment un contraste incroyable entre cette viande commercialisée sur les étals des supermarchés qui est impeccable et les conditions d'élevage, les conditions de transport, l'abattage de bétail, où ce sont bien les routes du sang, où le bétail voyage dans ses propres excréments, où c'est absolument dramatique en fait.
Alors c'est tout à fait dramatique. Après ça. Il y a beaucoup d'exemples qui ont fait l'état de rapports. Donc on a par exemple, ça peut être des problèmes administratifs qui font que pendant des semaines, des génisses par exemple européennes vont être bloquées à la frontière turque. Et que sous des chaleurs estivales, donc vraiment canicule, en fait, ne pas pouvoir descendre du camion parce qu'il n'y a pas de possibilité de les faire descendre du camion. Ça veut dire que les génisses passent 3 semaines en vrai dans un four. Bon, c'est un énorme problème, hein. C'est un problème qui est administratif. On se retrouve aussi avec des chauffeurs qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas de possibilité, qui ne peuvent pas décharger. On a aussi le cas d'autres animaux qui sont mis dans des camions et qui sont déjà blessés. Ça, la législation européenne l'interdit, mais ça existe encore.
Alors justement, vous restez avec nous. On va continuer cette longue route du bétail. On va parler de la législation européenne, des trous dans la raquette, de ce qui est respecté ou pas. Et nous allons retrouver aussi dans quelques instants Amira Souhelem, qui est correspondante de RFI en Tunisie. Ce sera juste après le Golden Boy dakarois Samba Pedzi. Lui, c'est un as pour mixer les rythmes, les influences du Mbalax à la trappe Mafia B chez 8 milliards de voisins.
Ouais. From Jaguar. Hey, yo, خل بلوم قد يقر مدف ما فيا بدقر كاج تدو دن دو دن تج مباري سنغو بتي خاجو دي نيو لين عجب كشي كشي نغاني رابو نوي بجوغو في دم سيت نجابو نيو نيو جوبرو بي رابو نوي بجوغو في دم سيت نجابو نيو نيو جوبرو بي Ya, ube kubla mulai chegin khalabun dawla bi laj tetin nyata ad may rambax gis anke se kasay fot 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 international diril machin jones bingay xejok sakim galan galay noke baju dox ngay deg night 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 ligay le fay ñom bay jey hey you fessa so coin men ni jamono bay dey rice sul ay job bay fay milay pulse de la saw man dam len bay hey yo xalbu lum ko digal mu def Mafia bi degeur kacc te du dañ Tej mbari sango bu tey Xaju de ñew len acci couché couché Ngani rabu noy bu jogu fi Dem set ñap ñoo ñu jubru bi Rabu noy bu jogu fi Dem set ñap ñoo ñu jubru bi Bilay khales nexna xamo si da Salaw
non bilu kay memali ñu dem Eh, bilay, khalis nehna, khamo si dara. Salaw, ndol bu metti rek mo la terenelo.
Eh, Doro Gucci, Doro Mega Superstaro. Yo, solo Gucci, tere nga solo, neke nero.
Yo, samba de musique, wali njaga oro. Fi, duñu kachu mustik, bis bis ana oro.
Khel bi lum ko digal mu def.
Dovlo.
Mafia bi degar kach te du deng du deng.
Eh, wax ma.
Taj mbari sango bu tey. Xaju de ñew leen acci couché couché ngani rabu noy bi jogu fi dem
set in ya puno no jubilee. Jubilee, jubilee. Rabunoi be jugufi. Jugufi, jugufi. Them set in ya puno no jubilee. Jubilee, jubilee.
8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI avec Émilie Fenotti. Vous publiez Carcasse, une enquête sur les routes de sang. C'est vraiment un travail où vous avez suivi finalement des activistes, hein, défenseurs de la cause animale, qui expliquent comment ils documentent toutes leurs enquêtes sur le transport de bétail en Europe, le transport de bétail en Europe, mais qui va jusqu'au Maghreb, qui va jusqu'en Irak. Vous vous êtes arrêté à la frontière turque, hein, pour vous.
C'est-à-dire
En Bulgarie,
bulgaro-turc, vraiment à la frontière turque.
Ouais. On est vraiment sur un marché mondial de la viande. Réduction des coûts, c'est l'obsession. Et c'est pour ça qu'on transporte, vous nous le disiez en première partie d'émission, le bétail vivant, parce que c'est moins cher que d'avoir des camions réfrigérés qui demandent beaucoup d'énergie et du matériel plus coûteux. Et puis ce bétail, il est aussi transporté par la mer. Par la mer, là, on est vraiment sur des ferries hors d'âge. Vous nous le disiez d'ailleurs, qui emploie les fameux cow-boys, qui sont souvent eux-mêmes des immigrés qui n'ont pas le droit de poser un pied sur le sol européen.
Tout à fait.
Qui ne sont guère mieux traités que les animaux, ceux qui travaillent sur ces ferries. Vous dites en 2024, 64 bétaillères maritimes agréées par l'Union européenne. Sur ces 64 bétaillères, 60 étaient des navires convertis, construits pour certains il y a plus de 5 décennies, c'est-à-dire plus de 50 ans. La question du pavillon est aussi centrale. La moitié des bateaux enregistrés naviguent sous un pavillon inscrit sur la liste noire internationale, Tanzanie, Togo, Sierra Leone. Ça veut dire quoi pour le bétail vivant ?
Alors ça veut dire qu'on est sur des navires qui ont été convertis, c'est-à-dire qu'au départ ils ne sont pas du tout faits pour transporter des animaux vivants, ni pour vraiment transporter des êtres vivants, hein, tout court. La plupart du temps, en fait, les bateaux partent à la casse au bout de 30 ans. Là, on est sur des navires qui ont 40-50 ans. Donc, c'est des navires qui sont complètement rouillés. Moi, certains membres des associations m'ont parlé d'épaves flottantes. Et on en voit quand même des hommes et des animaux par milliers à travers les mers. Donc, ça peut être à travers la Méditerranée, par exemple. Alors, le port de Sète en France envoie des animaux. Le port de Carthagène en Espagne envoie des animaux aussi à travers la Méditerranée. Ça peut être vers le Liban, vers la Libye, vers Israël. Et les conditions à bord sont vraiment désastreuses, c'est-à-dire que les animaux déjà sont effrayés au moment d'entrer dans les bateaux. En général, ils sont vraiment sur de la paille dans le meilleur des cas. C'est des navires qui sont complètement rouillés, qui sont vraiment dans un état désastreux. Et puis il y a aussi quelques cas quand même de naufrages ces dernières années qui sont très parlants en fait sur la condition de ces navires et des animaux.
On voit pas beaucoup les vétérinaires dans les enquêtes que les activistes mènent et que vous suivez.
Alors les vétérinaires, moi, que j'ai vus, c'était justement des vétérinaires reconvertis dans l'activisme et donc au sein des associations. Et c'est vrai que pour le coup, les vétérinaires qui travaillent, donc qui donnent les autorisations, parce que ce sont eux qui donnent les autorisations de transporter du bétail qui doit être en bonne santé, quand ils partent, et quand ils reviennent d'ailleurs, on ne les a pas croisés.
Voilà. Que dit la réglementation européenne ? Vous l'avez dit en première partie d'émission, il y a certaines réglementations sur les conditions de transport, mais il y a des trous dans la raquette, et quand il n'y a pas de trous dans la raquette, est-ce qu'elle est bien respectée ? Par exemple, les lieux d'élevage doivent être mentionnés, mais pas l'abattage pour le consommateur qui achète de la viande. Et s'il achète un produit transformé, là, on ne sait plus rien du tout. On ne sait pas du tout d'où vient la viande d'un steak haché ou d'un plat cuisiné, en principe.
Alors, la traçabilité qui est le mieux assurée, c'est quand même celle de la viande bovine. C'est-à-dire qu'une viande origine France, étiquetée origine France, normalement, elle est née, elle a été élevée, elle est abattue en France.
Normalement,
voilà.
Ça, c'est le label de 2014 créé par le gouvernement français, ou c'est un autre label ?
Alors,
ça,
je crois...
Viande de France, née, élevée, abattue en France.
En France. Donc ça concerne la viande bovine. Mais pour tout ce qui est porc, poulet, ovin, en fait, là, on a beaucoup plus un flou. On a juste le lieu d'abattage. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas où est né l'animal, on ne sait pas vraiment où il a été engraissé, parce que ce sont des animaux qui sont engraissés, et donc il arrive, on pense qu'on a une viande qui a vécu toute sa vie en France, et en fait, ça peut être pas du tout le cas.
Dans quelques instants, gros plan sur l'importation de viande européenne en Tunisie, puisque vous le racontez bien dans votre enquête, hein, cette viande européenne, elle ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. Et nous serons en ligne dans quelques secondes avec Amira Souhelem, correspondante à Tunis.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisins, bonjour les voisins.
Oui, bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Et allô ?
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Et 8 milliards de voisins, nous parlons du transport de bétail aujourd'hui en Europe. Cette viande européenne dont on parle, qui peut se retrouver dans les assiettes de consommateurs à des milliers de kilomètres de là, vous nous le disiez, Émilie Fenotti, dans des pays où le bien-être animal n'est pas toujours une priorité. Dans certains pays sont à la recherche de la viande la moins chère. C'est le cas de la Tunisie, qui fait partie de ces pays qui importent des animaux ou de la viande venue d'Europe. Bonjour Amira Souhelem.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre correspondante à Tunis. Pourquoi la Tunisie importe-t-elle de la viande ou des animaux en provenance d'Europe et puis pour quel volume aussi ?
Alors la Tunisie importe dans un premier temps pour les besoins de sa population estimée à 12 millions d'habitants, mais aussi pour fournir en viande les 850 hôtels du pays. Rien que l'année précédente, ce sont près de 9 millions de touristes qui ont visité la Tunisie. Il faut bien les nourrir. Alors il y a des moments de l'année comme ça où la Tunisie a particulièrement besoin de viande supplémentaire. Cela va être le cas à l'été lors de l'arrivée massive des touristes, on le disait, mais aussi des Tunisiens de la diaspora qui rentrent au pays, ou lors du Ramadan, mois saint, pendant lequel les Tunisiens, paradoxalement, augmentent leur consommation. Alors, pour des raisons, on va dire, d'habitude de consommation, la Tunisie importe très peu de viande congelée, seulement 200 à 300 tonnes par an. Elle préfère importer directement des bêtes et la demande en bovins, notamment, est galopante. De 2350 en 2021, ce sont près de 10 000 têtes qui ont été importées l'an dernier. Selon Lamine Khmiri, qu'on va écouter à l'instant, c'est un éleveur, un fils d'agriculteur, comme il aime à dire. Il est enseignant dans une école d'agriculture en Tunisie et il nous explique les raisons de ses besoins croissant justement.
Comme vous savez très bien, la Tunisie et même l'Europe connaît maintenant un changement au niveau des conditions climatiques. Il se manifeste en Tunisie par un manque flagrant en fourrage et des abstentions de pluie. Par conséquent, donc, cette perturbation climatique, elle se répercute automatiquement sur les prix de vente des fourrages. Donc, il y a une difficulté d'approvisionner le cheptel en aliments, et comme vous savez très bien que l'alimentation représente 80% plus ou moins de la charge d'engraissement.
Mais Amira Souhelem, importer de la viande européenne ou des animaux européens, est-ce que ça constitue du coup une concurrence pour les éleveurs tunisiens ?
Oui, effectivement, les éleveurs tunisiens ne sont pas ravis, à commencer par Lamine Khmiri que vous venez d'entendre à l'instant. Il estime que l'importation au moment les plus critiques de l'année est une solution, je cite, conjoncturelle, comprendre du court terme, du bricolage, on pourrait dire. Alors selon lui, des solutions de fond devraient être mises en place pour permettre à la Tunisie d'assouvir ses besoins carnassiers, d'autant que la viande importée n'est pas toujours beaucoup moins chère que celle qui pourrait être produite ici, toujours selon lui. Pour redynamiser la filière tunisienne, il propose d'accélérer la mise en culture de fourrages plus adaptés aux nouvelles réalités climatiques que connaît le pays. L'orge, l'avoine par exemple, devraient être davantage cultivés. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces préconisations, il y a le bien-être animal dont vous parliez à l'instant. On écoute à nouveau Lamine Khmiri qui en parle.
Au niveau des fermes, des grandes fermes, je dirais que le bien-être animal est respecté. Au niveau des petits éleveurs, le bien-être animal n'est pas bien respecté. Il faut l'avouer, il faut le dire. Donc, que faut-il faire ? Il faut avant tout passer à l'action en parlant de ce bien-être animal qui est à l'origine de la production, parce qu'on ne peut pas arriver à la production voulue. Un animal ne peut pas manifester sa production ou son niveau de production alors qu'il est en souffrance.
Merci Amira Souhelem, correspondante pour RFI en Tunisie pour ce reportage. Émilie Fenotti, on se rend compte quand même qu'on marche sur la tête. Hein. On a donc du bétail qui n'arrête pas de sillonner les routes d'Europe et au-delà, d'emprunter des ferries dans des conditions que vous nous avez décrites. D'un autre côté, on voit la Tunisie qui a du mal à nourrir son bétail pour des raisons de réchauffement climatique et qui devrait en fait adapter aussi sa production de bétail, travailler autrement. Et surtout, plus les animaux sont maltraités, moins la viande est de bonne qualité. Donc on se dit, mais finalement, où est-ce qu'on va ?
Oui, c'est vrai qu'on a l'air d'être vraiment sur un cercle vicieux. Hein. C'est-à-dire que le transport des animaux, l'exportation, vraiment a un coût écologique, ne serait-ce qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et ça va sûrement accélérer le changement climatique, enfin, y contribuer. Et qu'on ait déjà des pays comme la Tunisie qui n'arrivent déjà plus à subvenir aux besoins de leur bétail, c'est en effet assez affolant.
C'est aussi le cas du Maroc hein, que vous citez dans votre livre, qui peut, à certains moments de l'année, avoir besoin de plusieurs centaines de milliers de bétail, notamment au moment de l'Aïd, par exemple,
tout à fait.
Pour des moutons.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même ça reste un marché. Hein. Donc, comme la France exporte des avions, elle va exporter de la viande. Donc, en fait, au moment, il y a une saisonnalité. Bon, là, on parle en Tunisie de l'été, ça m'étonne. Mais c'est vrai, ça m'étonne pas. Mais il y a cette saisonnalité-là, mais il y a aussi la saisonnalité qui est en lien avec la culture, avec les diverses religions. Ça peut être... Alors, on n'est pas allé jusqu'aux États-Unis parce que là, on voulait travailler sur l'Europe. Mais ça peut être les dindes de Thanksgiving, comme les moutons de l'Aïd, en fait, qui vont faire voyager vraiment les animaux.
Dans votre livre, Émilie Fenotti, vous décrivez l'Espagne comme la boucherie de l'Afrique. Mais en fait, ce sont des fermes bovines qui sont des parcs d'engraissement catalans, mais les animaux arrivent de France ?
Alors oui, il y a des animaux qui arrivent de France, il y a des animaux qui arrivent d'Allemagne, parce que l'Allemagne est également un très grand exportateur de viande bovine. C'est le premier, la France est le deuxième, et on retrouve donc les animaux français et allemands dans des parcs d'engraissement donc au sud de l'Espagne. Donc là, ils sont engraissés pendant 8 mois, un petit peu plus parfois. Et ensuite, ils partent en effet sur les bétaillères qui sont à disposition, elles aussi, au sud de l'Espagne, donc à Carthagène.
Vous avez rencontré des douaniers qui tentent de vérifier que la réglementation européenne est appliquée, que les normes de transport sont appliquées.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai suivi une formation qui était donnée par une association. Donc là, je suis allée en Pologne. Donc, c'était des douaniers polonais. Mais en France, par exemple, on a les gendarmes qui sont formés également par ces mêmes associations. Donc, à la question du bien-être animal, à la réglementation européenne, qui est quand même assez peu connue de ces autorités. Et donc, il y a une partie théorique et une partie pratique qui est donnée. Et qui, voilà, les associations, par cette formation, espèrent... alerter les autorités un peu plus sur la question du transport et aussi leur donner des clés pour comprendre le bien-être animal et dans quel cas, en fait, il n'est pas respecté.
Les activistes sollicitent aussi des députés européens. C'est compliqué, c'est un travail qui est beaucoup plus difficile à mettre en lumière quand il faut suivre des camions pendant des nuits entières, monter sur des ferries. C'est beaucoup plus compliqué que quand on arrive avec une vidéo de L214 d'un élevage, d'une ferme où tout est sur place. D'autant plus qu'il n'y a pas... On est sur un secteur privé, donc quel est le droit de ces associations d'arriver avec un député européen pour dire on veut visiter tel port, on veut visiter telle condition de transport, on veut visiter tel ferry, comment ça se passe ?
C'est très compliqué, en effet, de documenter du fait, intrinsèquement, c'est un commerce en mouvement. Donc, on a fait beaucoup de filatures de bétaillères, donc ce sont de vraies filatures, en fait. On repart un camion, il y a des informateurs aussi qui disent un camion chargé de tels animaux va passer par tel point. Et en fait, les associations les suivent vraiment des jours et des nuits pour documenter à chaque instant le trajet, documenter la santé des animaux qui sont contenus dans le camion. Et pour ce qui est donc de tous ces points d'entrée, de sortie, de transit, donc par exemple le centre de contrôle qui existe dans le Cotentin, là on a été accompagné pendant l'enquête par des eurodéputés en effet qui s'emparent du sujet. Et ce qui nous a été montré, c'est qu'en fait les eurodéputés, de par leur autorité, ont pu rentrer dans le centre, constater Mais les associations ne sont vraiment pas les bienvenues, en fait.
Ça, c'est un centre de contrôle qui est...
Alors, c'est un centre de transit. On appelle ça centre de contrôle aussi. Mais en fait, lorsque les animaux débarquent, par exemple, donc là, c'était le cas des veaux irlandais, débarquent en France, ils doivent se reposer, comme on l'a vu de par la législation européenne. Et donc, pour se reposer, ils vont dans ce centre de transit pour passer une nuit. Et ensuite, là, ils sont nourris. Et en fait, il y avait eu des vidéos qui étaient sorties sur ce centre de transit et sur voilà, des actes...
De maltraitance animale.
Donc les eurodéputés en ont été informés et puis les associations ont travaillé avec elles pour rendre visite et puis bon, ben, confronter un peu le propriétaire de ce centre.
C'est notamment le cas de veaux qui ne sont pas sevrés, hein, c'est ça?
C'est ça. Alors ce sont les veaux irlandais, donc ce sont vraiment les veaux non sevrés. Ouais.
Et qui ne peuvent recevoir que du lait maternel, ceux qui n'ont pas dans ces centres de transit. Dans quelques instants, nous partons pour le Royaume-Uni qui a interdit l'exportation d'animaux vivants. Et nous rejoignons Emeline Vin qui est en direct de Londres.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Alors, est-ce que le Royaume-Uni est un cas d'école, une victoire pour les activistes de la cause animale? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, nous sommes en ligne avec le Royaume-Uni qui a interdit l'exportation d'animaux vivants. C'est tout récent. Cette loi a été votée sous le gouvernement précédent et l'interdiction est entrée en vigueur au printemps dernier. Et nous sommes en ligne avec notre correspondante à Londres. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce qui change exactement avec cette interdiction?
Bien, depuis la fin juillet, les éleveurs n'ont plus le droit d'exporter leurs animaux pour les faire engraisser ou les faire abattre hors du Royaume-Uni. Ça concerne les vaches, les moutons, les chèvres, les porcs et les chevaux. Depuis 4 mois, donc, la viande britannique de bœuf ou d'agneau, par exemple, provient exclusivement d'animaux abattus au Royaume-Uni. La volaille, donc, n'est pas affectée par cette interdiction, ni les exportations à des fins de compétition, on pense à l'équitation, par exemple, ou d'élevage de race.
Et pourquoi cette interdiction ?
La raison mise en avant par le gouvernement conservateur à l'époque, c'est le bien-être animal. C'est vrai que la pratique du transport d'animaux vivants était dénoncée par de nombreuses associations de défense des animaux, jugée comme une source de stress, de mal-être pour les bêtes. Il n'y avait pas non plus toujours de garantie sur les conditions de vie de ces animaux entre la fin du trajet et leur abattage. Il y a aussi une raison bien plus politique, hein, le Brexit, la sortie de l'Union européenne dont on promettait qu'elle rendrait du pouvoir d'achat et de la liberté aux Britanniques, tarde à accoucher de bénéfices concrets. La loi sur les exportations vivantes est donc présentée comme rendue possible par le Brexit et la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni sur son programme législatif.
Dans son communiqué, Emeline Vin, le gouvernement britannique se présente comme un leader dans le domaine du bien-être animal. On peut se poser la question, quelle est la réalité ?
C'est le Royaume-Uni est considéré comme le pays le plus respectueux des animaux au sein du G7, d'après l'Index mondial de protection des animaux. Devant la France, par exemple, c'est aussi le premier pays qui a mis en place des mesures pour le bien-être des bêtes. L'API, à l'origine de l'index, explique que Londres va en effet au-delà des standards européens sur de nombreux aspects, comme le commerce de fourrure interdit ici. Les animaux domestiques sont également particulièrement protégés, avec la restriction des ventes de bébés avant un certain âge, ou par des éleveurs non enregistrés. Alors même s'il reste des points perfectibles, comme l'interdiction des courses de chiens, la fin des exportations de bêtes vivantes devrait permettre au Royaume-Uni d'encore améliorer son score.
Ouais. Mais outre la victoire pour le bien-être animal, que disent les agriculteurs britanniques ?
Eh bien, de manière assez surprenante, le texte n'a pas rencontré d'opposition majeure. En fait, depuis le Brexit dont on parlait, il est très compliqué d'exporter des animaux vivants vers l'Union européenne, qui représentait le principal marché. Depuis 2018 et les premières mesures liées au Brexit, les exportations restent plutôt stables, mais faibles, d'où un manque à gagner assez moindre, même s'il existe pour les éleveurs. Les législateurs espèrent aussi que l'interdiction va permettre de faire de la viande britannique un produit reconnu pour sa qualité, notamment l'agneau. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour mesurer un potentiel effet compensatoire sur les exportations de viande et de produits à base de viande.
Merci Emeline Vin en direct de Londres. Émilie Fenotti, qu'est-ce que vous pensez de ce... Franchement, c'est pas un revirement, mais c'est vraiment une nouvelle direction, hein, que prend le Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne, avec cette interdiction de transporter des animaux vivants, d'exporter des animaux vivants.
Tout à fait. Ben, je pense que la décision prise par le Royaume-Uni, c'est une décision que les associations aimeraient voir prise par tous les pays européens et par l'Union européenne globalement.
Sachant que l'Australie aussi a récemment interdit l'exportation de moutons vivants, mais que la mesure ne prendra effet qu'en 2028. Est-ce que c'est une tendance qui se dessine ou est-ce que c'est impensable pour l'Union européenne ?
Ce qu'on peut voir par l'exemple du Royaume-Uni, c'est que quand même les associations ont l'air de parvenir à leur fin dans le sens où elles alertent de plus en plus et la question est vraiment... les politiques s'en emparent. D'un point de vue européen, il y a une législation qui est en cours d'adoption et d'exécution d'une révision de la législation européenne sur le transport des animaux, donc celle qu'on a évoquée un peu plus tôt.
Remettre à jour la réglementation de 2005, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Donc là, on aurait des temps de transport qui sont diminués, on aurait un temps limite pour les animaux qui partent à l'abattoir. On aurait aussi des conditions concernant les températures extrêmes, parfois le trajet de nuit, le trajet par canicule, qui seraient adoptés. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours pas mis en place. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'exemple du Royaume-Uni va être suivi au niveau européen.
Ouais, c'est quand même une ironie du sort que le Royaume-Uni, sorti de l'Union européenne, parvienne à un meilleur résultat. Est-ce que, paradoxalement, l'Union européenne, qui est le continent le plus réglementé au monde, n'est pas dans une impasse pour améliorer les conditions de transport, voire interdire la vente d'animaux vivants ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, est-ce qu'on parle d'impasse ? Je pense qu'il y a des intérêts économiques qui surpassent les intérêts de type bien-être animal, pour l'instant, c'est sûr. Enfin, je veux dire, rien qu'au niveau français, la France est largement excédentaire pour le commerce de la viande, enfin des animaux vivants. Hein. Donc, il y a un intérêt économique qui prévaut pour l'instant et à voir aussi... d'un point de vue, là où peut-être les pays s'en emparent un peu plus que l'Union européenne, par exemple, on a les Pays-Bas qui vont bientôt mettre fin à leurs importations de veaux irlandais. Donc ça, c'est une énorme décision de leur part. C'est-à-dire que, d'un autre côté, on a des éleveurs irlandais qui vont se retrouver avec des centaines de milliers de veaux sur les bras. Donc ça va sûrement bousculer un peu les choses sur ce commerce-là. Mais d'un point de vue européen... c'est-à-dire que donc le plus gros importateur de veau irlandais va vraiment couper le flux. Donc,
Pourquoi les Pays-Bas ?
Pourquoi ? Alors, justement, pour des raisons mises en avant de bien-être animal. Donc, ils demandent à ce que les niveaux de stress des veaux irlandais non sevrés soient acceptables durant tout le trajet. Or, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas.
Les lobbies, est-ce que les activistes disent qu'ils sont très puissants, qu'ils freinent les législateurs européens, est-ce qu'ils sont très présents à Bruxelles, les lobbies du transport de bétail, du bétail en général, de la viande ?
Ouais, ça va être le lobby vraiment agroalimentaire, de l'industrie de la viande. C'est difficile d'en parler parce qu'il y a des tensions et en fait c'est des choses qu'on m'a dites et qui ont été vécues par ces activistes. Par exemple, des tensions avec en effet les syndicats, les grands syndicats agricoles qui ont tendance à défendre en effet une économie plus que le bien-être animal ou le bien-être des agriculteurs.
À l'inverse, une organisation comme L214, qui est la plus médiatisée, c'est pas uniquement celle-là avec laquelle vous avez travaillé. D'ailleurs, non. Vous avez travaillé avec différentes... on peut peut-être les mentionner.
Oui, tout à fait. Alors, je suis allée en Irlande avec Eyes on Animals, qui est une association basée aux Pays-Bas, et CUWF Irlande. Deux activistes très, très impliqués. Animal Welfare Foundation, qui opère un peu partout en Europe, donc de l'Espagne à la Turquie,
à la Pologne,
à l'Autriche, à la Pologne.
Je reviens sur L214, qui est la plus médiatisée pour dénoncer la souffrance animale avec ses vidéos chocs. Cette organisation, elle a aussi été dénoncée pour ses financements provenant de multinationales qui misent sur la viande végétale. La viande végétale, c'est une nourriture qui est peu qualitative, qui est elle aussi émettrice de CO2. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes consciente ?
Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt quelques articles et livres de Jocelyne Porchet qui s'emparent vraiment de la question. Et en effet, je pense que... Donc là, on se pose la question de l'impact de notre consommation de viande, mais ce qui vient dans les années à venir, c'est aussi par quoi on remplace la viande et d'où provient cette viande de synthèse. Alors, pour ce qui est, par exemple, des steaks de soja, qu'on n'a plus le droit d'appeler steaks de soja, l'impact environnemental est quand même moindre, largement moindre. L'impact environnemental d'une viande, par contre, de synthèse qui est transformée, hein, qui va être beaucoup plus transformée, alors on a encore assez peu d'exemples, peut être par contre plus néfaste pour la santé et plus néfaste pour le climat.
À terme, que demandent très précisément les activistes que vous avez suivis là, à court terme ?
Alors, elle demande déjà
de bétail.
L'adoption de la loi, de la nouvelle législation qui est en cours, mais elle demande aussi...
De 2023, qu'elle soit enfin appliquée, en fait.
Tout à fait. Et elle demande, dans un monde idéal, la fin des exportations d'animaux vivants.
Ouais. Voilà. Il faudra probablement attendre encore un peu, mais c'est quand même une tendance qui se dessine peut-être quand on voit le cas du Royaume-Uni et de l'Australie. Ça posera probablement et sûrement d'autres types de problèmes et d'autres revers de la médaille. Merci beaucoup, Émilie Fenotti, d'être venue nous parler de votre livre Carcasse, une enquête sur les routes de sang, et publié chez Marchiali. Dans quelques instants, ce sera la chronique d'Osman Wanderday, mais tout de suite, c'est Pongo, une sélection de la playlist RFI Alambamento.
Call your puppy, tell him say that I got you. We gon' make film, part one, part two. Be the whole crow to my banku. I go spread you like lototo. Skin like coco, baby, no solo. Me then you feel blow moto. Me then you feel blow moto. No rushing, no wahala. No go feed do you yawa. Only be you, come closer. Only be you.
Vanderday chez 8 milliards de voisins, des conseils pour les consommateurs. Bonjour Osman.
Bonjour Emmanuel.
Nous parlons immobilier avec vous. Le continent africain est touché par une forte inflation ces dernières années, notamment dans le secteur du logement, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC ou encore au Ghana. Acheter son terrain pour y construire sa maison, c'est vrai un véritable casse-tête, Osman.
Effectivement. Construire sa maison, voir ses enfants y grandir, vivre des moments en famille, c'est une forme d'accomplissement normalement.
Oui.
Et pourtant, prenons l'exemple d'Ousmane Diagne. Après des études d'ingénieur en France, il est rentré chez ses parents au Sénégal. Aujourd'hui, il touche environ 12 millions de francs CFA par an, soit environ 18 000 euros, le plaçant donc dans la classe moyenne.
Pas de doute.
Avec ce pécule, il se voyait déjà vivre dans le quartier très élégant du plateau, dans un F4, et avec un peu de chance, pourquoi pas, une vue sur la mer.
Oui, je vous vois venir, Ousmane.
J'en rêve aussi. Un rêve possible auparavant, mais plus maintenant.
Ça fait un certain moment que je cherche la meilleure formule en termes de qualité-prix pour obtenir un bien, mais ici au Sénégal, ça devient dur d'obtenir quelque chose.
Ousmane, pourquoi la situation immobilière est si tendue au Sénégal ?
Eh bien, 25% de la population vit dans l'agglomération de Dakar. Et la ville regroupe 80% des activités économiques du pays. Cela explique pourquoi le marché est en tension. Mais il y a aussi l'inflation qui touche toutes les villes. Pour un F4 dans le quartier du Plateau en 2017, vous déboursiez 273 millions de francs CFA, soit à peu près 416 000 euros. Aujourd'hui, tenez-vous bien, il vous faudra 417 millions, soit environ 635 000 euros. Et même si vous parvenez à obtenir le terrain, il vous reste encore à acheter la pierre, le ciment et les briques pour la construction. Des dépenses qui ont doublé en 5 ans selon la direction de la prévision et des études économiques basée à Dakar. C'est pour cela que l'on peut déplorer de nombreux chantiers abandonnés dans la capitale. Alors, pour y remédier, acheter à plusieurs. C'est la promesse de l'entreprise G-Wall, une entreprise sénégalaise. Avec de la famille, des amis ou encore des inconnus, vous allez construire avec l'entreprise la maison ou l'immeuble de vos rêves. C'est ce qu'on appelle du crown building, c'est de la copropriété. L'entreprise garantit de réduire votre achat d'environ 40%. Pour enfin devenir propriétaire, Ousmane Diagne a tenté l'expérience. Et depuis, son inscription, il enchaîne les réunions.
Le but de la réunion, c'est d'accorder nos violons sur les demandes des copropriétaires et ce qui est possible d'être fait.
Ouais, alors, quelles sont les prestations de ce type d'entreprise ? Est-ce que c'est vraiment fiable à acheter à plusieurs, construire à plusieurs ?
Alors, je vais commencer par l'entreprise. L'entreprise, elle étudie les profils des acquéreurs, trouve les entrepreneurs pour votre maison, le maçon, l'architecte ou encore le carreleur. Il gère votre projet de A à Z, moyennant une commission de 5% sur votre achat. Mais voici un conseil. Avant de signer le contrat, bien évidemment, il est préférable de faire un point avec votre assurance et votre banque. L'immobilier étant instable, il faut faire attention si l'entreprise met la clé sous la porte, par exemple. Le choix d'Ousmane est payant. Il a pu acquérir un terrain avec 6 autres personnes et chaque jour, en rentrant du travail, il voit l'évolution de l'immeuble qui doit être livré dans 6 mois. Par contre,
le but de la réunion, c'est de s'accorder sur les envies de copropriétaires et surtout de ce que l'on peut faire.
À ma connaissance, ce type d'entreprise n'existe qu'au Sénégal. Mais sachez que vous pouvez aussi faire cela avec vos amis ou votre famille, peu importe où vous êtes. Cela permet de réduire les coûts de 20 à 30%. Cela varie selon le nombre de participants et le type de bien que vous souhaitez. Donc, retenez une chose, ensemble, on est plus fort.
Voilà, mais il faut bien préparer son dossier tout de même et savoir avec qui on construit à plusieurs. Merci Ousmane Van Der Dey, votre chronique est à retrouver sur RFI.fr à la page des 8 milliards de voisins.
Écoute pas les termes aujourd'hui. Ce que j'ai dit là, c'est important que
je... 8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et pour réécouter toutes nos émissions à l'heure qui vous convient, quand vous êtes au calme, tranquille, eh bien vous allez sur l'appli RFI Pure Radio, à la page des 8 milliards de voisins, et sur toutes les plateformes de téléchargement, et plus besoin de connexion Internet une fois que vous avez téléchargé l'émission dans votre téléphone. Merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine Cachin, Romain Dubrac. Demain, 8 milliards de voisins, nous serons aussi en direct et nous parlerons éducation, notamment du harcèlement scolaire. Et puis comme toujours, en fin d'émission éducation, il y a vos questions de parents ou d'éducateurs au psychologue Ibrahima Girou qui vous conseille, qui vous répond. Alors surtout n'hésitez pas à nous parler de vos inquiétudes avec les enfants dont vous avez la charge. Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, le journal sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.